VOA Afrique, les infos. À Washington.
Georges Bion, il est midi à Libreville au Gabon. Bonjour à tous. Et au Gabon, un collectif défrait la chronique après avoir lancé un ultimatum à Libreville pour reconnaître la vacance du pouvoir en l'absence du président Ali Bongo hors du pays. Dimanche 31 mars, si rien n'est entrepris pour mettre un terme, nous devrons agir pacifiquement pour exiger que soit mis fin à l'imposture en cours. On décrit fin février 9 personnalités politiques, syndicales et de la société civile rejoindre dimanche par l'opposant Jean Ping. Le gouvernement gabonais a qualifié ce message d'appel à la désobéissance et à la rébellion. Le porte-parole de la présidence et le premier ministre ont répondu que le président Bongo allait plutôt bien. Au Gabon, au Congo-Brazzaville, pardon, les autorités appuyées par une ONG britannique, le Fonds mondial pour la nature, WWF, veulent créer un cinquième parc national. Seulement, les populations riveraines ne sont pas totalement d'accord. Et l'ONG est obligée d'organiser une consultation auprès des populations. À Brazzaville, retrouvons notre correspondant Arsène Séverin.
C'est pour la première fois dans la création des parcs nationaux au Congo que les communautés sont directement consultées. Sont-elles d'accord ou pas de vivre dans le voisinage d'un parc national? L'idée en elle-même paraît surréaliste que les populations estiment que cette consultation n'est qu'un bluff. Ici à Swanké, au quartier Ngoman, les voix s'élèvent.
Nous aussi, ici, on a besoin de l'école, on a besoin de l'hôpital. Là, ça peut nous aider aussi dans le village aussi. Mais pour le parc, on a besoin du parc.
Plus loin, au village Dia, dans le district de Sembe, le conflit homme-éléphant complique le processus de création de la réserve Messordia. Les populations posent leurs conditions.
Dévastation des champs, ceci, cela, ce que nous disons, nos déléances qu'on amène selon le VVF, l'État, le gouvernement. Donc, il n'y a pas de suite. Avant, il n'y avait pas de parc. Nos biens sont dévastés. Aujourd'hui, si on met le parc, on va vivre comment? On va manger quoi? Moi-même, j'ai perdu 5 hectares de champs de bananiers, de jeunes cacao pétinés, de manioc détruits, on veut dire. Tout ça, là, donc ça fait mal au cœur.
C'est pour lever tous ces écueils que l'ONG britannique, le Fonds mondial pour la nature, WWF, organise des consultations pour expliquer l'intérêt de cette aire protégée. Un consortium d'ONG a même été mis en place pour faire le boulot. Martial Dimi, de la Brain Forest du Gabon.
L'un des préalables de notre travail, c'est déjà de préciser aux communautés qu'elles ne doivent subir aucune pression, quelle que soit la source. Cette pression ne doit pas venir de nous, en tant que facilitateurs et qui avons la responsabilité d'un implémenter le CLIP. Cette pression ne doit non plus venir des autorités locales, elle ne doit pas également venir du VVF.
Lilian Barros, du comptoir juridique junior du Congo.
Il faut qu'il y ait d'abord cette consultation-là pour que les communautés donnent leur avis ou leur point de vue en connaissance de cause. Et en même temps, que les communautés connaissent aussi quels sont les droits qui seront appliqués quand on aura mis en place l'aire protégée et quelles sont les restrictions qui vont arriver.
Les populations estiment que les autorités finiront bien par se passer de leur avis. Pourquoi alors les distraire par cette consultation? Mais Dieudonné Patrice Ekutuba Bobomela, coordonnateur de l'espace Tridoum Interzone Congo, pense le contraire.
Les études sont vraiment avancées avec les populations riveraines qui sont tout autour de la nouvelle aire protégée qui est en création. À ce niveau, on a déjà identifié les zones d'activité de ces communautés autour du parc ou bien dans le nouveau aire protégée qui vont se créer.
Pour l'heure, les débats se poursuivent et diverses interprétations émaillent le processus de création du futur parc national. Messok Dia, de retour de Swanké dans la Sanga, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Les pluies torrentielles qui ont noyé le Mozambique ont fait plus de 60 morts et des milliers de déplacés, selon un nouveau bilan des autorités locales qui ont placé le pays en état d'alerte en prévision de l'arrivée prochaine du cyclone Idai. Au moins 66 personnes ont été tuées par les inondations dans le centre et le nord et des milliers de personnes déplacées d'après le gouvernement. Près de 6 000 habitations ont été détruites, plus de 140 000 personnes sinistrées, plus d'une centaine de milliers d'hectares et de récoltes inondées. Vous suivez VOA Afrique. 6 militaires maliens ont été tués hier lorsque leur véhicule a sauté sur une mine au cours de 2 patrouilles distinctes dans le centre du Mali, ont annoncé les forces armées maliennes, alors que des sources de sécurité évoquaient un bilan de 7 morts. Malgré la mission des Nations Unies au Mali, une forte présence militaire française et la création de la force militaire régionale G5 Sahel, les violences djihadistes persistent dans le pays avec 237 attaques recensées en 2018, soit 11 de plus qu'en 2017 selon l'ONU. Les suites de la saisie record de cocaïne à Bissau le week-end dernier, on a appris qu'un collaborateur du président de l'Assemblée nationale du Niger fait partie des 4 personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire. Yacouba Ouédraogo.
Le conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale du Niger en question est Mohamed Sidi Ahmed, selon le directeur adjoint de la police judiciaire, Domingos Montero Correa. 2 Maliens et 1 Bissau Guinéen étaient toujours recherchés hier, selon la police judiciaire de Guinée-Bissau. Dans la nuit du 9 au 10 mars, la police Bissau Guinéenne a saisi près de 800 kilos de cocaïne dissimulée dans un camion immatriculé au Sénégal, la plus grande prise de drogue dans le pays depuis au moins 12 ans, selon des sources policières. Les stupéfiants avaient pour destination le nord du Mali, a précisé mardi la police judiciaire. 4 suspects, 2 Nigériens, un Sénégalais et un Bissau-Guinéen, ont été arrêtés à la suite de cette saisie à la sortie nord de la capitale Bissau. Cette saisie a eu lieu quelques heures avant les législatives dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, où l'instabilité et la pauvreté ont favorisé l'implantation de trafiquants de drogue sous la protection de hauts gradés.
La Commission électorale nationale au Nigeria a annoncé mardi avoir invalidé les résultats des élections des gouverneurs dans au moins 6 États de la Fédération qui devront se tenir à nouveau samedi prochain. Le Nigeria avait voté le week-end dernier pour élire les gouverneurs et les représentants des assemblées locales dans 29 des 36 États de la Fédération nigériane. Les observateurs internationaux déployés pour la présidentielle et les législatives du 23 février ainsi que pour les régionales du 9 mars ont déjà fortement critiqué l'organisation et les multiples violences qui ont entaché la crédibilité du scrutin. La France et l'Éthiopie ont signé mardi un accord de coopération en matière de défense ouvrant la voie à une relance de la marine éthiopienne à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron. Cet accord inédit de coopération de défense offre le cadre d'une coopération renforcée et ouvre notamment la voie à un accompagnement spécifique de la France sur la mise en place d'une composante navale éthiopienne abandonnée depuis la sécession de l'Érythrée en 1991, a déclaré le chef de l'État français à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre Abiy Ahmed à Addis Abeba.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Brexit maintenant, les députés britanniques ont rejeté l'accord de retrait, un accord que leur présentait pour la seconde fois la première ministre britannique Theresa May. Ce nouveau rejet plonge le Royaume-Uni dans une crise politique d'une gravité sans précédent depuis plusieurs générations. Jacques Aristide.
The eyes to the right, 242. The nose to the left, 391. So the nose have it.
La sanction est moins lourde qu'en janvier dernier, mais elle laisse la Grande-Bretagne dans la plus profonde incertitude sur l'issue d'un processus amorcé par le référendum du 23 juin 2016. Le plan amendé de Theresa May proposait des garanties, notamment pour éviter le rétablissement d'une frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Un filet de sécurité assorti de la promesse faite par les Européens de ne pas chercher à maintenir indéfiniment le Royaume-Uni dans une union douanière. Mais des assurances qui n'ont pas convaincu les députés tant du Parti conservateur que ceux du Parti travailliste de Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition qui a estimé hier soir que l'heure était à des élections générales. À l'annonce de son nouvel échec, Theresa May, la voix cassée, a dit regretter profondément ce vote, mais maintenu que l'accord était le meilleur possible.
The government will approach these meetings in a constructive spirit, but given...
La chef du gouvernement a réaffirmé sa volonté d'organiser 2 nouveaux votes, le premier dès ce mercredi. Parmi les premiers à réagir, le porte-parole du président du Conseil européen, Donald Tusk, a estimé que ce rejet avait accru de façon significative le risque d'un Brexit sans accord, redouté par les milieux économiques.
Merci Jacques. Environ 3000 djihadistes se sont rendus mardi aux forces démocratiques syriennes, les FDS, soutenues par Washington dans l'est de la Syrie, où les bombardements auraient pris de plus belle en fin de journée contre le dernier réduit du groupe État islamique. Les FDS, une alliance de combattants kurdes et arabes, sont engagés depuis décembre dans une offensive contre l'État islamique avec le soutien d'une coalition internationale anti-djihadiste emmenée par les États-Unis. Mais ces dernières semaines, la présence dans la poche de très nombreux civils, en majorité des familles de djihadistes, a freiné l'offensive. Et si des dizaines de milliers ont fui, nul ne sait encore combien il en reste. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous aurez en votre compagnie Henri Francisque. Bon après-midi à tous et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.